Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Province de l'Ituri, la situation sécuritaire reste préoccupante. Hier mercredi, des affrontements ont eu lieu entre l'armée et les rebelles de la force patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC en sigle, dans les villages de Walou à 36 km de Bunia. Bilan, 2 FRDC tués et 8 miliciens de la FPIC neutralisés. Pendant ces accrochages qui ont duré plus d'une heure, les miliciens ont réussi à piller plusieurs biens de la population. L'armée affirme avoir récupéré une quantité importante de munitions de guerre. Qu'est-ce qui explique cette nouvelle attaque de la FPIC malgré les initiatives en cours pour le rétablissement de la paix dans cette partie du pays? C'est l'objet du débat de ce soir et dans cette émission nous recevons Gratien de Saint-Nicolas Irachan, il est député national élu de Bouniaville dans la province de l'Ituri. Il est cadre du regroupement politique MS de la plateforme Ensemble pour le changement dans la coalition Lamouka. Bonsoir, honorable Gratien de Saint-Nicolas Irachan.
Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi. Bonsoir, la Meko débatteur.
Marie-Noëlle Nyaloka, coordonnatrice intérimaire de la société civile de l'Ituri. Bonsoir, madame Marie-Noëlle Nyaloka.
Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Et Didier Bitaki, il est ancien membre des groupes armés au Kivu, il est expert en désarmement et à droit international humanitaire. Bonsoir, monsieur Didier Bitaki.
Bonsoir, Gumate, bonsoir à tous les auditeurs de radio Okapi, bonsoir à mes co-débatteurs.
Bienvenue à tous, une fois de plus, dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nous l'avons dit dans les sommaires de cette émission, 2 militaires FRDC tués et 8 miliciens de la force patriotique et intégrationniste du Congo FPIC neutralisés. C'est le bilan des affrontements entre l'armée et ses rebelles hier mercredi dans le village de Walou à 36 km de Bunia. Pendant ces accrochages qui ont duré plus d'une heure, les miliciens ont réussi à piller plusieurs biens de la population. L'armée affirme avoir récupéré une quantité importante de munitions de guerre. Les points avec Ezekiel Mouzalia.
Le village de Walou s'est réveillé hier mercredi sous des crépitements des balles de l'armée régulière et des miliciens de la force patriotique et intégrationniste du Congo FPIC à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Bunia. À la base, ces miliciens qui voulaient attaquer une position des FARDC dans la zone. Ces inciviques n'ont pas résisté à l'assaut de l'armée régulière, les uns fuyant dans la brousse, les autres dans des localités voisines. Les bilans de cette attaque fait état des 2 militaires tués et des 8 miliciens neutralisés. L'armée affirme par ailleurs avoir récupéré un lot important de munitions que détenaient ces hors-la-loi. Le porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, précise que la traque de ces miliciens continue notamment dans un autre centre minier en territoire de Mombasa où deux éléments Maïmaï ont été neutralisés. Deux armes de type AK-47 et une munition de calibre 12 ont également été récupérées par les forces de l'ordre. Bunia, Ezekiel Moussa Mouzalia, Radio Okapi.
Merci à vous, Ezekiel Mouzalia. Gratien de Saint-Nicolas Irachan, député national élu de Bouniaville dans la province de l'Ituri. Vous êtes cadre du regroupement politique MS et de la plateforme Ensemble pour le changement dans la coalition Lamouka. Nous venons de suivre avec vous ces reportages d'Ezekiel Mouzalia. Les miliciens de la force patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC, ont attaqué les positions des FRDC hier à Walou, en Ituri. Et ces affrontements ont duré une heure. Et même si les FRDC sont parvenus à repousser ces miliciens, mais comment vous expliquez leur courage, hein? Ils ont pris l'initiative d'attaque. Vous sentez une certaine détermination de leur part. Comment vous l'expliquez, monsieur Irachan?
Messieurs les journalistes, je commence par compatir avec tous les militaires qui sont en train de mourir au front, parce qu'il y a beaucoup de militaires qui sont morts et on n'en parle pas. Et d'ailleurs, on aurait souhaité qu'il y ait une commission d'enquête. Et il y a beaucoup de peuples, je compatis avec les peuples ituriens qui meurent tous les jours. Évidemment, tous les jours, il y a plus ou moins 20 à 30 personnes qui sont décédées, exécutées. Malheureusement, c'est devenu une routine où on ne veut plus en parler. Alors, dire que ces groupes de miliciens sont déterminés, je ne le pense pas. En fait, c'est un groupe qui a plus de revendications, malheureusement des revendications qui ne sont pas suivies, et la frustration conduit à ce qu'il y ait maintenant des attaques sur les FRDC ou sur la police nationale congolaise. Donc, je crains que ces actions puissent continuer aussi longtemps qu'il n'y aura pas de réponse à leurs revendications. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, on est en train de dire que les SPIC est ici majoritairement de la communauté Bira. Et ce sont des fils Bira, selon les informations que nous avons eues, mais aussi d'autres communautés qui se retrouvent dans ces miliciens. Mais il dit tout simplement, selon les informations que nous avons reçues, que la communauté Bira est mal considérée au niveau de la province de l'Ituri pour l'injustice sociale que la communauté est en train de subir. Ils affirment aussi qu'ils ont des terres qui sont illégalement exploitées par d'autres communautés et que cette communauté est minimisée et ce mépris fait en sorte qu'ils sont obligés de revendiquer. Plusieurs fois, ils ont adressé des revendications au gouverneur et pour eux, l'État congolais ne les considère pas. Donc je crains que ça continue, que ces attaques puissent continuer parce que quand il y a un groupe armé qui naît, c'est soit par des revendications qui ne trouvent pas de réponse, de solution, ou alors soit pour des intérêts politiques, des positionnements, ou alors ce sont des communautés qui profitent même de la faiblesse de l'État congolais pour pouvoir mettre un groupe armé qui va travailler et qui va chercher à obtenir...
Honorable Iratian, et si, s'il faut, chaque fois quand on a des revendications à faire et concernant compte que ces revendications ne sont pas prises en compte, s'il faut chaque fois procéder par cette approche, c'est-à-dire les recours aux armes, et je pense que c'est toutes les communautés en RDC qui vont procéder ainsi, hein, parce que les frustrations, vous savez, c'est pas une nouveauté, hein. On connaît la précarité dans laquelle les gens vivent dans ces pays depuis plusieurs années. Et donc, les gens sont frustrés et les gens ont des revendications qui n'ont pas encore trouvé des solutions. Et ce n'est pas ça qui peut justifier les recours aux armes, n'est-ce pas, honorable Iratian?
Non, ce qui est vrai, il faut établir les faits. Quand il y a des revendications, il n'y a pas de réponse. Mais aussi quand on est face à un État qui ne sait pas protéger la communauté, à ce moment-là, l'être vivant, ça c'est naturel, c'est scientifique, tout individu, tout être vivant qui se sent en danger, non protégé, développe un mécanisme de résistance pour pouvoir se protéger. Donc, aujourd'hui, on est face à une communauté qui revendique. Malheureusement, quand la revendication ne vient pas, cette communauté transmet sa voix par une autre voie, parce que tout simplement, l'État est faible et l'État ne sait pas s'assumer, l'État n'a pas un pouvoir fort sur la population. On n'est pas en train de donner toutes les réalités autour de ce qui se passe en Ituri. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la ville de Bounia est isolée pratiquement? Toutes les localités environnantes sont armées, sont prises en étau par tous ces groupes de miliciens. Donc là, la ville est étouffée et on n'en parle pas. Donc pour dire que on est loin pour le moment de sortir de cette affaire, si jamais on ne prend pas la question au sérieux.
Au-delà des revendications que vous venez de relever ici, notamment les terres de la communauté Bira qui sont exploitées par d'autres communautés, notamment le fait que cette communauté Bira se sent déconsidérée, n'est-ce pas, dans la société. Au-delà de ça, est-ce que on ne peut pas aussi expliquer la persistance de l'insécurité en Ituri par les arguments qui sont souvent utilisés par rapport à l'insécurité au Kivu? Ici, je parle du Grand Kivu, où on essaie de justifier la persistance de l'insécurité par l'affairisme de certains officiers des FRDC, la complicité au sein des FRDC, la connexion des rebelles avec les pays limitrophes. Est-ce que les réalités du Kivu peuvent être transposées en Ituri? En d'autres termes, est-ce que l'insécurité en Ituri pourrait avoir les mêmes causes que celles du Kivu, au-delà des revendications que vous avez évoquées?
Mais oui, c'est vrai que c'est un conflit et que les autres acteurs extérieurs peuvent chercher à pouvoir s'emparer du problème. Mais je vous dis, nous avons beaucoup étudié les problèmes de l'Ituri. C'est d'abord un problème iturien. Il y a eu dialogue à commande à la surface en Ituri. Les Bira, ils ont dit ceci. Nos terres sont utilisées illégalement. Ils ont dit que nos chefs coutumiers ont été arrêtés. Ça ne s'est jamais passé en Ituri avec d'autres communautés. Pourquoi seulement aussi de nos chefs coutumiers qui sont arrêtés? Ils ont même dit qu'ils sont très mal considérés. Ce sont des faits qu'ils ont avancés et ils n'ont pas donné d'autres raisons. Donc je vais dire quoi? Maintenant, quand la communauté directe, locale, donne des revendications et prend les armes, c'est normal maintenant que nos forces de sécurité, certains officiers qui sont égarés, vont en profiter maintenant pour commencer les business. Peut-être d'autres pays étrangers qui voudraient aussi qu'il y ait l'instabilité de la RDC vont maintenant chercher à vendre les armes ou à pouvoir introduire les leurs pour pouvoir continuer à détruire le pays. Donc le vrai problème, c'est d'abord la communauté locale, mais maintenant les autres personnes viennent en tout cas mettre la main pour commencer à semer les désordres pour que ça soit continu.
Merci Madame Marie-Noël Nyaloka. Vous êtes coordonnatrice intérimaire de la société civile de l'Ituri. Et comment vous comprenez cette nouvelle attaque de la FPIC? Vous avez suivi l'honorable Gratien de Saint-Nicolas Irachan qui explique cela par les frustrations que cette communauté Bira manifeste à travers ces attaques, les frustrations du genre nous nous considérons comme étant des gens qui ne sont pas souvent écoutés, on ne tient pas compte de nous, nous avons nos terres à nous dont nous ne jouissons pas, ces terres sont exploitées par d'autres communautés. Et est-ce que vous expliquez cette nouvelle attaque de la FPIC par ces revendications relevées ici par l'honorable Irachana?
Merci pour la parole, monsieur le journaliste. Je voulais commencer par informer l'opinion que ce débat n'est pas nouveau. Ça date. Durant 3 ans, nous ne cessons de soulever le soleil autour de l'insécurité en Ituri. Hier, avant-hier, on a parlé de plusieurs groupes armés, dont il y a la CODECO qui a endeuillé suffisamment et continue à endeuiller l'Ituri. Aujourd'hui, le débat tourne autour de FPIC dans les territoires du Roumain. Nous justifions que ce regain de sécurité, monsieur le journaliste, par 3 causes principales. Premièrement, nous avons constaté le délaissement du gouvernement central. Le gouvernement central considère les tueries en Ituri comme un phénomène qui est déjà normal. Parce que, je l'ai dit, il ne passe pas un jour en Ituri sans qu'il y ait une vie qui tombe. Aujourd'hui, nous débattons autour des atrocités en territoire du Roumou causées par les militaires de FPIC. Hier, c'était la CODECO, avant-hier, d'autres sont en cours. On ne peut pas seulement se mystifier autour de FPIC. Nous sommes en train de constater que c'est devenu un cycle infernal.
Vous avez parlé des 3 causes. La première, c'est la négligence ou la passivité du gouvernement central.
La deuxième cause, nous allons évoquer l'affairisme des opérateurs économiques, les opérateurs sécuritaires plutôt. Tous les jours, ces derniers sont sur terrain. Mais on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Chaque jour, on nous dit que la situation est sous contrôle. Mais une situation sous contrôle qui n'empêche pas le meurtre tous les jours dans la province de l'Ituri. Aujourd'hui, nous parlons de Walu, à territoire du Roumou. Hier, on a parlé d'un autre village. Nous avons eu à publier plusieurs rapports dans ce sens-là. Et la troisième cause ici, monsieur le journaliste, nous allons souligner la non-cohésion des communautés de l'Ituri. On ne parvient pas à comprendre qu'aujourd'hui, le débat tourne autour des communautés. Vous avez bien suivi l'honorable Gratien Irachan qui veut un peu assimiler le FPIC à la communauté Bira qui aurait posé certaines revendications dans la table ronde qui a eu lieu dernièrement à Komanda, en territoire du Roumou. En tout cas, monsieur le journaliste, ça nous choque. Nous, quand on nous parle de communauté dans l'affaire qui se passe en Ituri, c'est très choquant. Parce qu'on ne comprend pas des communautés pacifiques. La communauté Bira n'a jamais fait la guerre depuis l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement la communauté Bira. Il y a Amaagi. Donc, partout, les débats tournent autour des communautés. Cela est considéré par nous comme une fuite de responsabilité. Et c'est une non-cohésion entretenu par certaines personnes politiques. dont nous faisons les morts dans cette émission.
Voilà, au-delà de ces causes qui expliquent, n'est-ce pas, la persistance de l'insécurité dans la région de l'Ituri, il y a aussi ce phénomène de résistance des groupes armés. Ces groupes armés se maintiennent grâce à quoi, madame? Ont-ils des ressources qui leur permettent de résister? Comment ils sont approvisionnés en armes et munitions? C'est quoi leur source de financement? Ont-ils le soutien de la population? En fait, qu'est-ce qui explique leur résistance, à votre avis?
Monsieur le journaliste, c'est la question que vous deviez poser à un répondant des opérateurs sécuritaires. Parce que nulle part en Ituri, il y a une usine qui fabrique les armes, les munitions. Moi encore au Congo. Vous pouvez nous dire aujourd'hui, en RDC, dans quelle province on fabrique les munitions, les armes qui circulent et qui ravitaillent ces groupes armés. Alors, vous voulez nous faire comprendre ici que si ces différents acteurs négatifs qui persistent, ils ont des agendas cachés. Jusque là, on n'a pas vu une revendication qui est mise en public pour qu'on comprenne qu'est-ce que ces gens expriment. On est en train d'assister à une situation qui semble être complexe. L'Ituri ne fait que subir des choses que nous ignorons. Et surtout la terrible population qui aujourd'hui est indépendante à travers la province de l'Ituri et surtout dans toutes les directions. Alors, dire que pourquoi ils résistent dans l'imposition, c'est une question que vous pouvez poser aux acteurs sécuritaires. C'est à eux de nous dire pourquoi ces groupes négatifs sont devenus plus forts aujourd'hui sur le terrain.
Oui, ces attaques de la FPIC interviennent au moment où des initiatives sont en cours pour amener la paix dans la province de l'Ituri. Et du coup, on se demande si ce n'est pas ça la particularité de l'Ituri comparativement au Nord Kivu. C'est-à-dire qu'en Ituri, quand un mouvement, c'est ce qu'on a constaté, hein, quand un mouvement semble s'impliquer dans un processus de pacification, un autre se manifeste et prend tout de suite de l'ampleur en procédant par des actions de courage, des actions d'audace. Comment vous expliquez ce phénomène, madame?
C'est ça la terrible dont nous parlons, monsieur le journaliste. Quand on veut initier des actions à ramener les acteurs négatifs pour rejoindre le drapeau, soit à la démobilisation, ça peut arriver parce qu'on approche l'un pour qu'il négocie la paix et l'autre en profite. C'est ça l'atérisme dont nous avons parlé. Comment expliquer, monsieur le journaliste, aujourd'hui, un groupe quelconque se donne le luxe de massacrer? Et le lendemain, le gouvernement présente des initiatives pour les rattraper. Et demain, l'autre va observer et va continuer. Donc, c'est une façon de créer un cycle infernal. Selon nous, nous pensons que ces initiatives seraient le bienvenu dans le cadre de la consolidation de la paix. Mais pour ramener la paix, ce ne sont pas ces initiatives-là de négocier, de sensibiliser, de tout ce qui se passe, c'est que nous sommes en train d'observer sur le terrain qui sont vraiment le chemin à amener la province de l'Ituri dans la paix.
Merci Didier Bitaki, vous êtes ancien membre des groupes armés au Kivu, vous êtes expert en désarmement et en droit international humanitaire. Votre analyse par rapport à cette nouvelle attaque contre les FARDC attribuée aux miliciens de la FPIC?
Merci monsieur les journalistes. D'abord, je dois adresser mes condoléances aux familles éprouvées, tant militaires que civiles. Cette question, on en a débattu plusieurs fois et je ne cesse de dire la même chose au regard du développement de la situation et de la réalité du terrain de l'Ituri. L'Ituri est une zone spécifique par rapport aux autres régions où on a observé ou assisté à la même situation des cas des groupes armés. Je voudrais ici rappeler que en 2003, lorsqu'il s'agissait de la mise en œuvre de l'accord global et inclusif de San Suu, l'Ituri est resté en marge de ce processus que les jeunes gens de FRPI, de l'UPC de Thomas Lubanga et bien d'autres n'ont pas pu bénéficier du brassage ou de l'intégration au sein des forces armées de la RDC qui ont été constituées juste en conséquence de l'accord conclu, et ces derniers sont restés dans la brousse avec leurs armes et leurs moyens militaires, avec les connexions qu'ils avaient. Donc, je vais dire d'abord le premier problème de l'Ituri en termes d'insécurité. Et ce problème est lié à ce que il n'y a jamais eu une action quelconque du gouvernement pour mettre fin à la violence de la province de l'Ituri. Parce qu'il y a eu la force Artemis qui s'est déployée sur place en disant qu'ils allaient mettre fin à l'existence de groupes armés, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres régions où on a intégré des miliciens dans les forces armées congolaises. La conséquence, c'est qu'en Ituri, et les armes et les combattants sont restés les mêmes, ils n'ont jamais changé.
Didier Bitaki, on rappelle quand même que la force Artemis a pu neutraliser les groupes armés en Ituri.
On a connu
une certaine accalmie pendant une longue période de plusieurs années, n'est-ce pas?
Je veux vous interrompre tout de suite en disant qu'il n'existe jamais une victoire militaire définitive. Parce que le Taliban et les Américains se battant après 17 ans de cela, les Américains ne pouvaient pas aller négocier directement avec les Talibans tout en sachant qu'ils avaient quand même obtenu une victoire militaire sur eux. Il faut que nous aimions les pays. Le problème, c'est que les frustrations ici de San City sont celles qui motivent pour la plupart des cas des jeunes gens en Ituri à utiliser les armes qui sont restées là depuis qu'il y a des années, il y a 17 ans de cela que c'est problème.
Et donc, vous voulez dire par là qu'après les opérations Artemis, il n'y a pas eu un processus DDR qui a suivi?
Je voudrais rappeler qu'il n'y a jamais eu de DDR à Ituri. Je voudrais rappeler qu'à Ituri, les armes qui étaient portées n'ont jamais été déposées. Je voudrais rappeler que le nombre de combattants qui existaient parmi les groupes armés n'a jamais été déclaré. Finalement, on veut chercher la paix en disant, on va vers la démobilisation, on négocie, je ne sais comment. Mais on parle de quoi ici? Il y a des frustrations de ces combattants-là qui étaient considérés au même titre que les autres groupes armés qui ont intégré l'armée pour former l'actuelle FARDC, qui sont encore sur place aujourd'hui. Mathieu Ngoujo le sur place. C'est Germain Katanga sur place. Vous avez Thomas Lubanga sur place. Est-ce que ces gens-là vous ont dit combien de combattants ils avaient et qui devaient intégrer l'armée, quoi qu'ils aient fait, la CPI? Est-ce que ces gens-là vous ont dit combien d'armes ils avaient et qui devaient être récupérées, détruites ou alors récupérées par les forces armées de la République? Le problème commence par là. En deuxième lieu, vous avez le cas de la CODECO. Le gouvernement s'est dit qu'il était en train de mener un processus devant ramener la paix et le calme ou alors la démobilisation de ces hommes. Moi, j'ai constaté, parce que ça fait longtemps que je suis dans ce processus, je ne cesse de prodiguer conseils, mais qui n'ont toujours pas été entendus à cause, je pense, de la boulimie du pouvoir des hommes qui sont là, qui n'acceptent jamais qu'ils intègrent un conseil provenant de quelqu'un qui n'en vit rien du tout. Le problème de l'Ituri est que, parce qu'il y a différentes communautés qui se sont entretuées hier, toute communauté disposant de son propre groupe armé, la solution c'est que il faut d'abord résoudre le problème post-San City en intégrant au même titre que les MLC, que les RCD KML, que les Mai Mai, que les RCD Goma, tous ces combattants appartenant aux groupes qui ont existé dans la région. La deuxième étape consistera finalement à résoudre les conflits intercommunautaires. Vous savez que l'incompétence qui gangrène l'administration publique congolaise est aujourd'hui à la base des problèmes qui se passent dans différents milieux. Parce que là, on parle déjà des problèmes fonciers. Qui doit régler les fonciers? C'est l'État congolais. Ce sont les ministères régaliens. On parle des problèmes d'exploitation des gens. Qui doit régler ces problèmes? C'est le gouvernement. Mais à cause de l'incompétence du gouvernement, où on pense qu'en restant dans un bureau climatisé à Kinshasa, on résout tous les problèmes du pays, alors que les paisibles citoyens dans la bourse peinent à survivre à cause de différents qui existe entre eux et d'autres communautés. Et le gouvernement ne sait pas restaurer son autorité. La conséquence, c'est que tout le monde se prend en charge. Et voilà la raison de l'existence de l'attaque qui a eu lieu que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Donc pour moi, je pense que la solution est d'abord globale. Une solution globale, à savoir les éléments que je venais de citer. Et en plus, il faut y ajouter finalement ce fait qui consiste à laisser les frontières de la RDC poreuse où les armes entrent, où les minéraux payent ses armes pour l'extérieur, on se focalise sur des combats sporadiques contre des groupes qui sont bénéficiaires des appuis extérieurs sur le plan militaire, mais on oublie que les frontières, l'intangibilité des frontières congolaises est une prérogative obligatoire dévolue aux forces de défense et de sécurité. L'échec et les compétences des forces armées de la République démocratique du Congo est à la base de la prolifération des armes à l'intérieur de la RDC. Quand la dame a posé la question de savoir où passent les armes qui ravitaillent les groupes armés, par où passent les munitions qui nourrissent les groupes armés. Mais écoutez, est-ce que les frontières congolaises avec l'Ouganda sont fermées? Est-ce que ces frontières sont surveillées? Vous avez même des militaires du Sud-Soudan qui sont à Ituri. Vous avez des militaires ougandais qui opèrent à Ituri. Mais pour lesquels le gouvernement ne s'est jamais déclaré être préoccupé par la présence des forces armées étrangères en RDC. Alors que ça, c'est une zone minière. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils exploitent la faiblesse de l'administration centrale du gouvernement congolais.
Nizelita, une autre particularité de l'Ituri, hein, c'est ça ce que nous avons observé, c'est le fait qu'on a l'impression d'être en face d'un monstre à plusieurs têtes. La FRPI a renoncé à la lutte armée depuis quelques mois, et la CODECO semble avoir observé une certaine accalmie suite, selon certaines personnes, à la demande initiée par le chef de l'État à travers les anciens seigneurs de guerre. Et subitement, c'est la FPIC qui prend de l'ampleur et attire l'attention sur elle. Alors, on a l'impression que quand un mouvement semble renoncer à la violence, c'est un autre mouvement qui naît tout de suite, qui prend de l'ampleur, qui attire l'attention sur lui. Est-ce que là, on n'est pas dans un cycle infernal, comme l'a dit Mme Nyaloka? On a vraiment l'impression de faire face, n'est-ce pas, à ces monstres à plusieurs têtes.
Et c'est pour cette raison qu'en conséquence, moi j'avais dit que le problème de la RDC relève de la compétence des gouvernants. Parce que quand vous voulez résoudre un problème, vous le prenez de manière partielle. Parce que CODECO a existé, parce que le FRPI existait, parce que l'UPC existait, le problème de l'Ituri est réglé. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut considérer de manière globale l'ensemble des problèmes qui se posent dans la région. En incluant tout le monde, le processus actuel est exclusif, il faut le reconnaître. Il faut prendre un processus globalisant, où tout le monde participe à la recherche de la paix, où tout le monde pose ses revendications. Et il y a des réponses en face qui lui sont données par l'autorité compétente. En ce moment-là, on répond au problème de tout le monde. Mais lorsque on veut prendre une partie du problème, parce que la CODECO émanant, répondant plutôt à l'aspiration d'une ethnie de la région, on répond à cette ethnie, mais l'autre en voisinage doit également poser ses propres problèmes. C'est de cette façon-là que les choses s'empirent. Mais il faut prendre de manière globale les questions qui se posent généralement dans la région et trouver les solutions adéquates par rapport à chaque spécificité d'ethnie ou de groupe ou peut-être de territoire. Merci. Mais le gouvernement, malheureusement, se balade et puis il s'en tient à tout ce qu'on lui raconte alors que la réalité est tout autre. Moi, en tant qu'autorité, j'aurais dit, en tout cas m'installer d'abord dans un premier état en Ituri en disant, j'en appelle à tous les Ituriens, venez me poser vos problèmes, moi je vais les résoudre de façon administrative, politique, juridique et militaire. C'est comme ça qu'on doit résoudre le problème de l'Ituri.
Et donc vous voulez dire par là que les réalités de l'Ituri échappent au gouvernement congolais? Le gouvernement congolais ne perçoit pas très bien la particularité de cette région qu'est l'Ituri?
La question échappe complètement et de manière générale à la réalité, donc à la conception du gouvernement. Le gouvernement est distrait, il ne connaît rien de ce qui se passe, il envoie des émissaires pour apprendre. Malheureusement, on envoie des émissaires, ces émissaires donnent des rapports par rapport à leurs propres convictions qui ne tiennent pas compte de la réalité globale de la région.
Merci.
C'est tout simplement cela. Oui.
Merci. Honorable Irachan, vous allez réagir à ces commentaires qui viennent de l'auditeur qui nous appelle depuis Goma, au Nord Kivu.
C'est André Tatoulouba depuis la ville de Goma, au Nord Kivu. À mon humble avis, le pourparler reste un processus qui ne devrait pas être fait en un clin d'œil. Il en revient à l'armée de continuer à mener d'abord ses attaques de grande envergure sur la trace de ses miliciens. La reprise des attaques de cette milice serait peut-être dit par le fait que les modes opératoires, quant à ces, n'arrangeraient pas les protagonistes. Il serait évident que les institutions en la matière à tous les niveaux changent des stratégies afin de pouvoir restaurer l'autorité de l'État. Dans cette contrée du pays, et les gouvernements congolais prennent aussi des responsabilités en respectant les protocoles signés par certaines milices qui ont accepté la reddition puisque cela servirait aux autres groupes armés. Comme exemple, les contraires, ça serait verser de l'eau dans le dos du canard.
Oui, honorable Irachan.
Oui, celui qui a posé la question, il a pratiquement raison. Parce que ce qui est vrai, le problème, ce sont les institutions de l'État qui ne fonctionnent pas. Vous avez dit plusieurs fois pourquoi ces groupes se maintiennent. Moi, j'ai dit, il y a des revendications qui ne sont pas répondues. et qui permettent à ce que les gens prennent les armes parce que l'autorité de l'État est faible. Et quand il y a un petit groupe qui prend les armes, ce groupe-là est encouragé par les institutions de la République, dont l'armée et la police. Mais nous ne voyons pas de face qu'il y a des artéristes, des généraux, des officiers qui sont en train de gagner, ou des politiciens qui gagnent dans tout ça. Le vrai problème, c'est quoi? C'est vrai qu'on a un conflit interne en Ituri et qu'il y a des responsabilités locales de nos communautés, mais pourquoi ça se passe comme ça? Parce que nous avons une défaillance totale de l'État congolais. Ça, on ne doit pas mâcher les mots. Et je vous l'ai dit, le premier responsable de ce qui se passe en Ituri, avant c'était Joseph Kabila, maintenant c'est Félix Tshisekedi. On ne doit pas se valider. C'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Moi, je vous donne l'exemple. La justice est en panne aujourd'hui. Combien de cas que notre justice, que ce soit les parquets, que ce soit les tripets, que ce soit au niveau de la cour d'appel, ont expédié comme problème à Ituri sur les cas de l'insécurité. Rien, ils n'ont jamais discipliné des gens. C'est compliqué. On vous fait des farces là comme si on était en train de rendre, on prend juste les gens qui sont minables et qui n'ont pas de force et on dit voilà, on a rendu des jugements. Non, la justice est affaiblie. Moi, je suis député national. Combien de questions, des initiatives parlementaires j'ai engagé à l'Assemblée nationale et toutes ces questions parlementaires ont été jamais répondu, même des missions d'enquête, des missions de contrôle au sein de l'armée, tout a été bloqué. Et on a entamé avec les coquilles des députés nationaux combien de démarches auprès des ministères de défense, auprès des ministères de l'intérieur, au niveau des chefs de l'État, au niveau de la primature, que ce soit avec Monisco, on a fait tout ce qui est possible. Nous, on comprend que le problème, c'est le pays qui est en panne, c'est le gouvernement qui ne donne pas de réponses.
Parce que vous dites que le gouvernement ne donne pas de réponses idoines aux revendications. Vous avez évoqué toutes ces revendications qui ne sont pas prises en compte. Et donc, cela voudrait dire que les chefs de l'État avaient raison d'initier cette approche politique en envoyant les anciens seigneurs de guerre auprès de ces chefs miliciens pour essayer de parler avec eux. Peut-être qu'à l'issue, n'est-ce pas, de ces consultations, ces gens vont dire exactement ce qui les pousse à prendre les armes et on aura la résolution des revendications qui sont restées en suspens, n'est-ce pas?
Non. En tout cas, messieurs les journalistes, il ne faut pas qu'on fasse la confusion. On envoie des émissaires. Ce n'est pas mauvais. Nous voulons encourager tous les efforts qui peuvent ramener la paix. Mais dites-nous, est-ce que les gens qui sont sur place à Ituri, est-ce qu'ils ne savent pas ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas un pouvoir qui existe? Le chef de l'État est représenté à la province par un gouverneur qui a tous les pouvoirs. Au niveau des territoires, il y a des administrateurs des territoires. Au niveau des chefferies et secteurs, il y a des responsabilités jusqu'au niveau des localités. Mais pourquoi tous ces gens, ils ne sont jamais interpellés? Le problème est connu jusqu'à Kinshasa. Ce n'est pas ces émissaires-là qui vont donner la solution à la paix, bien que nous encourageons. Mais même les groupes Codeco, leurs revendications, ce n'est jamais connu clairement. Donc, il y a des problèmes qu'on doit tabler au niveau de l'État. Et l'État congolais aujourd'hui, si vous cherchez à faire comprendre cette idée de problème d'économie, où par exemple il y a des fraudes, le gouvernement connaît tout ce qui se passe, il connaît ce qui se passe en matière d'insécurité, par où les armes entrent. Mais seulement c'est un gouvernement qui ne veut pas donner solution, qui le fait sciemment. On doit le dire clairement.
Et à votre avis, quel serait l'intérêt du gouvernement de maintenir les statu quo? Quel serait l'intérêt du gouvernement de voir sa population être tuée, être égorgée tous les jours? C'est quoi l'intérêt du gouvernement, à votre avis?
Beaucoup de membres du gouvernement vivent de la guerre à l'Est. Moi, je vous l'ai dit parce que si on commence le contrôle des officiers militaires aujourd'hui, au sein des ministères de la Défense, on va arrêter beaucoup de gens, au sein des ministères de l'Intérieur, on va arrêter beaucoup de gens. Il y a un officier qui disait à un collègue député, « Sobati n'ingana et tout, à Rosombongo et Belé. Donc si on m'envoie un étudiant, j'aurai beaucoup d'argent. » Pourquoi il dit ça? Parce que c'est l'affairisme. Et cet argent, ça remonte jusqu'au niveau des sommets de l'État où il y a des gens qui sont impliqués. Et il faut normalement un contrôle rigoureux. Ça, c'est un. Mais de deux, il y a aussi ces projets de balkanisation, ne l'oublions pas. Il y a des gens qui voudraient assez que les pays soient divisés pour bien régner et ils sont en train de servir des intérêts des Occidentaux.
Merci, honorable.
Pour terminer, c'est à cause de nos richesses minières où il y a des multinationales qui voudraient s'approprier des parties où ils vont exploiter l'or ou le pétrole.
Merci, Madame Marie-Noël Nyaloka. Vous allez aussi réagir à ces commentaires qui viennent de cet auditeur qui nous appelle depuis Lubumbashi.
Je m'appelle Daniel Adikoum, j'interviens à partir de Lubumbashi. En fait, j'ai toujours été contre la négociation avec les milices, car la place de ces derniers se trouve dans les cours des tribunaux pour répondre de leurs actes. Ce cycle de négociation a déjà fait preuve c'est ça, c'est vrai. Il est donc temps de changer le paradigme. L'État doit dorénavant prendre ses responsabilités à travers l'FRDC pour imposer la paix.
Madame Marie-Noël Nyaloka, votre réaction?
Merci pour la parole encore, monsieur le journaliste. Vous avez bien compris la question de l'auditeur de Lubumbashi et que les démarches entreprises par le gouvernement, telles que la négociation, le dialogue, nous pensons que ce sont des distractions à ce niveau qui interpellent le gouvernement central à prendre sa responsabilité. Loin de la population ituriennes, le débat autour des communautés. Parce que les gens se cachent derrière les communautés pour qu'ils ne soient pas étalés officiellement. Vous avez bien suivi la réaction de mon co-débatteur du Nord Kivu, je ne connais pas son nom malheureusement.
Didier Bitaki. Didier Bitaki.
Voilà, il a été clair dans son intervention. Est-ce ici c'est question d'encourager un cycle infernal qui n'aura pas sans fin? Donc on négocie avec celui-ci pour encourager l'autre. Et le gouvernement central maîtrise très bien la situation de l'Ituri. Nous avons dit dans notre intervention, si on essaye de mener un contrôle minutier au sein des officiers de l'armée, je vous dis, monsieur le journaliste, vous avez constaté ce qui pourrait arriver avec de ces travaux-là qui pourraient être réalisés par les experts.
Madame Nyaloka, et ceux qui pensent que, compte tenu du fait que les opérations militaires ont déjà montré leurs limites, que la meilleure façon, c'est d'essayer, n'est-ce pas, de parler avec ces miliciens, négocier avec eux, avec espoir, de voir ces gens déposer les armes et donc obtenir le rétablissement de la paix dans toutes ces provinces.
Et s'il faut négocier avec le groupe armé, parce que c'est déjà reconnaître sa faiblesse. Négocier signifie qu'on est faible. Et cela n'a pas été observé aujourd'hui, monsieur le journaliste, c'est 3 ans durant que nous dénonçons du jour au jour les tueries à l'Ituri. Si il faut faire le schéma de négociation, que les forces armées puissent le déclarer, qu'ils cessent de poursuivre ces gens. Chaque jour, on attend le discours, on est en train de les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Ils vont combattre les ennemis de la paix jusqu'à ce que le territoire soit assaini. Mais à ce niveau où, au même moment, il faut traquer, au même moment, il faut amorcer le dialogue, nous pensons que c'est une façon de laisser la population dans la rue.
Merci.
Si le gouvernement pense qu'il est dépassé par la situation, qu'on teste avec les opérations militaires et on donne l'occasion au dialogue. Et on négocie avec le groupe armé pour dire que la COVID des populations retrouve la paix.
Merci. Monsieur Didier Bitaki, vous allez réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis le Kassai Central.
C'est Fariel Malata depuis Kassai Central. Cette nouvelle attaque se justifie dans le sens où l'État congolais n'arrive pas à prendre réellement en compte ce que ces rebelles revendiquent. Pour mettre fin à ces actes insupportables, l'État congolais doit renforcer les dispositifs pouvant aider l'armée à repousser ses rebelles et refuser toute négociation avec l'ennemi et multiplier les attaques contre ses ennemis, à telle fin que la paix règne pour que la population vive la sécurité dans cette partie du territoire.
Didier Bitaki.
Voilà, la même erreur risque de se reproduire ici lorsque nous considérons que nous avons une solution militaire définitive pour la question des groupes armés, notamment à l'Est. C'est faux ce que dit l'auditeur. Le FRDC, c'est là qu'il faut circonscrire le problème. Le FRDC sont constitués d'un assemblage de milices. Je n'insulte pas l'armée, mais nous devons dire la vérité. Le FRDC aujourd'hui sont constitués d'un assemblage de milices qui ont été actives dans différentes régions et qui constituent aujourd'hui l'armée nationale.
Mais c'est Bita qui voulait dire par là que la FRDC n'est pas un corps homogène, c'est un corps composite.
Il n'y a pas d'homogénéité, il n'y a pas de cohésion idéologique, il n'y a pas une instruction ou un objectif commun au sein des forces de défense et de sécurité de la RDC. Il faut reconnaître ces faiblesses. Quand vous comptez sur une armée comme celle-là pour démanteler une milice et que vous y envoyez les troupes qui ont appartenu au même groupe, vous voulez vous attendre à quel résultat? Je vais vous donner un exemple. les députés qui sont partis au Nord Kivu il n'y a pas une semaine ici, quand ils arrivent, dans le but de vouloir accompagner les FARDC à neutraliser les ADF, parce que la population s'oppose contre la prise de l'aide humanitaire que le gouvernement avait apportée. On prend cette question, on les fait porter à la responsabilité de ces députés-là comme quoi ils sont ennemis des FARDC, raison pour laquelle ils ont instrumentalisé la population à rejeter l'aide du gouvernement. Ce n'est pas comme ça, il y a de l'affairisme dans cet accord. Ce qu'il faut faire pour ce pays est qu'il faut arrêter tout simplement tout ce qu'on appelle opération militaire contre les groupes armés.
Et donc vous donnez raison à ceux qui privilégient l'approche politique.
Il n'y a pas de solution militaire au problème de l'insécurité à l'Est, je le répète, par expérience, par connaissance et par maîtrise de cette
question. Et donc, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a eu raison d'envoyer les seigneurs de guerre pour essayer de trouver une solution pacifique avec ces miliciens, parce qu'il n'y a pas de solution militaire.
Si
elle n'est pas militaire, c'est qu'elle est politique.
Voilà, vous me ramenez encore à l'Ituri. J'avais dit au départ que l'Ituri est un cas exceptionnel, parce qu'à l'Ituri, les hommes des groupes armés qui, après la signature de l'accord global et inclusif, sont restés à l'Ituri, ce sont les mêmes qui existent aujourd'hui, qui attendaient l'intégration. Pourquoi on ne les a pas intégrés au sein de l'armée? Maintenant, aujourd'hui, on veut y aller pour dire on va les démobiliser. Et des généraux qui sont au sein des FARDC, qui avaient opéré de la même manière, mais n'ont jamais réussi à mettre fin à leur compatriote.
Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que l'on puisse pacifier la région de l'Ituri?
De manière définitive et globalisante, on doit prendre en compte les revendications de tous ces groupes qui, jusqu'à présent, selon leur déclaration, se disent prêts à intégrer l'armée. Ils sont prêts à se démobiliser. Ils sont prêts à déposer les armes et intégrer l'armée. Pourquoi ne pas les prendre, intégrer l'armée telle qu'ils les demandent? Parce que l'armée républicaine et tout le monde doit y prendre part. Pourquoi on refuse à cette catégorie qui ne puisse devenir des soldats comme les autres? Alors, c'est ça la solution. Mais si on dit, nous devons demeurer dans des opérations où on est en train d'enrichir les officiers militaires qui gagnent leur vie à travers ces rangs de choses, donc on sacrifie et la population, la cohésion nationale, l'unité nationale et la sécurité territoriale. Pour moi, j'ai dit, la solution est simple. Le chef de l'État, quoi qu'il ait envoyé cette délégation-là, n'ayant pas mission de décider au nom du gouvernement, il faut y déployer des personnalités dotées du pouvoir devant leur permettre de décider au nom du gouvernement et de rendre compte à qui que ce soit pour en finir, parce que cette délégation-là pourra répondre aux revendications posées par différents groupes.
Merci.
Et proposer des solutions.
Merci.
Si tel n'est pas le cas, moi je ne pense pas que à la lire où vont les choses, on règle les problèmes. Mais non.
Merci, Gratien de Saint-Nicolas. Irachan, nous sommes presque à la fin de l'émission. On va commencer à conclure. À votre avis, que faut-il faire pour pacifier de façon durable la région de l'Ituri?
Il faut commencer par résoudre les problèmes locaux. Il faut donner des réponses à des revendications. Je reviens toujours sur ça. Et en plus de cela, les chefs de l'État, le président Félix Tshisekedi, doit prendre ses responsabilités en tant que garant des bons fonctionnements des institutions de la République.
Merci.
Parce que si toutes les institutions marchent, fonctionnent bien, il y aura solution aux problèmes de l'Ituri. Nous saluons le travail que fait la délégation du chef de l'État, mais attention, juste cette délégation doit dire arrêter les tueries, mais les responsables des tueries, des crimes doivent être punis. Ça doit être comme ça pour ne pas donner la chance aux autres de pouvoir confier à tuer, à continuer des massacres dans les jours à venir avec d'autres groupes de miliciens.
Merci Marie-Noël Nyaloka, votre conclusion. Qu'est-ce que vous proposez pour pacifier l'Ituri?
Merci. Nous proposons quatre solutions, monsieur le journaliste.
Rapidement.
Que le gouvernement prenne sa responsabilité. Que le chef de l'État puisse s'impliquer personnellement dans la situation sécuritaire de l'Ituri. Deuxième solution, c'est de contrôler les officiers de l'armée. Ils sont nombreux ici, au même moment, les jamais. La troisième solution, c'est de maîtriser les effets militaires. Ces groupes négatifs opèrent avec les effets militaires qui ne sont pas produits en RDC. Et la dernière solution, c'est de poursuivre en justice les.
Merci, Monsieur Didier Bissaki. Un mot en guise de conclusion.
Un mot, c'est que je voudrais dire que le président de la République, en tant que garant des institutions et du bon fonctionnement de la République, devra lui-même comprendre qu'il n'y a pas de solution militaire au problème de l'Est de manière générale et qu'il faut utiliser les solutions pacifiques possibles devant ramener tout le monde à
Merci.
Déposer les armes sans violence.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Patrick Kiasonga qui était à la technique. Merci à Kéline Kouté, Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.